Bonjour Webster, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Shadrach Minkins?
En fait, Shadrach Minkins est une personne qui est née en esclavage en Virginie, aux États-Unis. Et puis, il a décidé de s'auto-émanciper, de prendre la fuite, autour de 1849. Et il s'est réfugié à Boston. Là-bas, il a été arrêté par un chasseur d'esclaves qui l'a amené, au palais de justice. Et donc, en 1850, il passait une loi aux États-Unis, la loi sur les esclaves fugitifs, qui permettait aux gens du Sud, aux esclavagistes du Sud, de remonter jusqu'au Nord pour arrêter les personnes qui s'étaient enfuies, et ce, avec l'aide du gouvernement. Et donc, Shadrach Minkins est amené au palais de justice, pour, être envoyé en esclavage vers le Sud des États-Unis, vers la Virginie. Et à ce moment, la communauté afro-bostonienne s'est levée et est entrée de force dans le palais de justice, dans la salle d'audience. Ils ont pris Shadrach Minkins et l'ont sorti du palais de justice et l'ont envoyé à Montréal, à travers le chemin de fer clandestin, qui était cette association de personnes-là qui aidaient les personnes asservies à s'enfuir. Et donc, Shadrach Minkins a passé le reste de sa vie à Montréal, est décédé en 1875. Et donc, la vie de Shadrach Minkins est importante parce que finalement, ça nous montre toute la résilience et la résistance face à l'esclavage et surtout comment une communauté s'est organisée pour pouvoir le faire sortir de cette dynamique-là et toute la radicalité aussi d'une communauté, parce que l'acte que cette communauté a fait était illégal et les gens ont risqué leur vie, ils ont risqué leur avenir pour sauver la vie de cet homme-là. Donc c'est vraiment une histoire qui est très inspirante.
Le public, le grand public, sait que tu en as fait aujourd'hui une passion, un métier d'aller déterrer comme ça et de révéler l'histoire cachée de ce territoire. Comment est venue à toi l'histoire de Shadrach Minkins?
Mais il m'est venu notamment à travers mes discussions avec l'historien Frank Mackey. Et par la suite, j'ai lu un livre écrit par Gary Collison qui s'appelle Shadrach Minkins, qui est à peu près le seul livre qui a été écrit au sujet de cet homme-là. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée avec mon père et Marie-France Abastado, qui est à Radio-Canada, de revenir sur les traces de Shadrach Minkins et d'en faire un podcast. Donc, un podcast de 10 épisodes qui revient sur vraiment les différentes étapes de la vie de Shadrach Minkins. Donc, on est parti à Norfolk, en Virginie. Et de là, on est allé vers Boston. On a rencontré une historienne à New York, du nom de Sylviane Diouf. Et ensuite, on est passé par Cambridge, Concord, Leominster, le Vermont et Montréal.
Je rappelle peut-être ce podcast, il est encore sur la plateforme au radio, donc les gens peuvent vraiment l'écouter. Est-ce qu'au cours de ce périple là justement que tu as fait avec ton père et avec Marie-France, est-ce que vous avez découvert qu'il y a éventuellement d'autres personnes mises en esclavage qui ont réussi à s'enfuir et sont venues à Montréal?
Oui, ben en fait, même en dehors du périple, c'est des informations qu'on connaît, des gens qui ont fui l'esclavage des États-Unis pour venir se réfugier ici à Montréal et partout ailleurs au Canada. Souvent, ces gens, pour la plupart, passaient par Montréal, mais continuaient vers l'Ontario, parce que l'Ontario était anglophone et protestant. Ici, c'était catholique et francophone. Et donc, pour plusieurs d'entre eux qui aussi avaient des membres de famille, etc., en Ontario, ben, c'était plus facile la navigation, si on veut. Donc, plusieurs continuaient vers Toronto, mais certains ont passé le reste de leur vie à Montréal et même Québec.
Quel message, Webster, quel message, notamment cette plaque-là, pour le nous d'aujourd'hui?
Ben, pour ma part, ça tourne toujours autour des mêmes messages, c'est-à-dire, ça nous prend des marqueurs afin de mieux comprendre notre histoire afro-locale, c'est-à-dire qu'elle soit afro-montréalaise, afro-québécoise ou afro-canadienne. Et c'est en plaçant justement des plaques commémoratives comme ça, en faisant différentes initiatives qui nous permettra de mieux ancrer cette histoire-là dans nos consciences et inconsciences collectives. Parce que l'information existe, les livres existent, mais il est temps de les sortir des livres pour que les gens entrent en contact avec cette histoire-là et qui nous permettent d'avoir une vision différente de notre histoire et de notre passé. Et en même temps, de célébrer une personne comme Chadrach Minkins nous permet de célébrer la résistance à l'esclavage, parce que les gens n'étaient pas que des victimes passives de l'esclavage. Et donc, en mettant l'accent sur la résistance, nous permet de centrer la discussion autour des personnes et de leur agentivité.
J'ai envie de terminer en te disant mission accomplie, mais je ne dirai pas ça parce que j'imagine qu'il y a encore d'autres pistes sur lesquelles tu es en train de travailler pour déterrer, entre guillemets, d'autres histoires.
Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est qu'une partie, mais il y a tellement d'autres choses à faire. Et tu vois, comme la semaine passée, quelques jours avant l'inauguration de la plaque pour Chadrach Minkins, nous avons inauguré une nouvelle plaque pour Olivier Lejeune à Québec. Donc, il y a désormais deux plaques pour Olivier Lejeune à Québec. Et donc, il faut maintenant faire désigner d'autres personnes afro-québécoises, afro-canadiennes dans les différentes instances gouvernementales, les faire désigner comme personnages d'importance historique, à poser d'autres plaques, à poser d'autres marqueurs. Et ça, tout membre de la population peut envoyer des demandes au provincial ou au fédéral. C'est juste qu'il faut bien les documenter puis savoir où adresser ces demandes, mais c'est ouvert à tout membre de la population. Donc, j'encourage les gens à le faire et de pas attendre que ce soit Rito ou moi ou Dorothy Williams ou Frank Mackey qui continue le boulot. Je crois que tout le monde doit mettre la main à la pâte là.
Où trouves-tu, qu'est-ce qui te motive? Où trouves-tu la force? Qu'est-ce qui te motive pour faire ce que tu fais?
Je dirais que c'est l'histoire que j'aurais aimé connaître quand j'étais jeune. Pour ma part, ayant grandi ici, étant né, ayant grandi ici, j'ai toujours été intéressé par l'histoire afro, c'est-à-dire l'histoire afro-diasporique et africaine, mais j'avais aucun référent afro-locaux. Donc, mes référents, c'était ma comique, c'était les Black Panthers, c'était Medgar Evers, c'était ce qui se passait aux États-Unis, ou encore les grands personnages de l'histoire africaine comme Samori Touré ou Ella Jomartal ou Chaka Zulu. Mais il n'y avait personne pour faire le lien entre ma réalité de métisse au Canada, au Québec, à Québec, et l'histoire noire. Et c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir dans ma jeunesse et qui aurait contribué à la manière dont j'ai façonné mon identité en ce territoire colonial, tu vois. Et donc, c'est un peu ce que je voudrais faire pour les générations suivantes, c'est leur transmettre ces informations-là, ou du moins faciliter l'accès à ces informations-là. Parce que, comme j'ai dit plus tôt, les informations existent, mais parfois il est plus difficile de les extirper des livres dans lesquels elles ont été insérées. Donc j'essaie un peu de faciliter l'accès pour que ensuite des gens aient un sens plus, j'ai envie de dire, plus étroit de leur afro-canadiennité, de leur afro-québécité.
Merci beaucoup, Webster.